Nous sommes entrés dans un état de crise écologique durable et planétaire. Hervé Kampf, extrait de Comment les riches détruisent la planète. Le mode de production capitaliste et le modèle de société qui en découle est la cause directe de la crise écologique majeure à laquelle nous sommes confrontés depuis 3 ou 4 générations. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous nous heurtons aux limites de la biosphère et nous subissons les conséquences de plus en plus directes du saccage systématique des sols, de l'air, de l'eau et de toutes les espèces vivantes. Le milieu naturel a atteint le maximum de corruption compatible avec la survie des humains et, développement durable oblige, nous allons droit dans le mur. Voici l'abécédaire de la DER des DER. Comme junk food ou malbouffe. Écoutons ce témoignage d'un ingénieur en saucisse en mission en 2008 pour la société Herta.
Étant arrivé chez Herta le 2 janvier, ma première mission a été choisie de manière à me faire découvrir le secteur pour lequel je serais amené à travailler, celui de la fabrication des knackis. La production des célèbres saucisses se fait sur 2 chaînes de fabrication sensiblement identiques, pour une longueur de parcours du produit de plus de 120 mètres, à travers des fours de cuisson, des mécanismes d'embossage, des systèmes de broyage et de refroidissement. La production des knackis met en jeu de nombreux paramètres qu'il n'est pas toujours facile de maîtriser, en particulier l'hygrométrie, la pression, la température qui dépendent du climat. Et l'entreprise constate régulièrement, 3 à 4 fois par mois, des défauts sur des lots complets de saucisses, aspect, texture, couleur. Herta a donc besoin de créer une base de données regroupant tous les facteurs imaginables pouvant influer sur le produit tout au long de chacune des étapes de sa fabrication. Voilà l'objet de cette mission de découverte. Ce travail de recensement est tout d'abord un travail d'organisation, d'observation et de dialogue avec les responsables des différents secteurs de la chaîne de production. Des diagrammes ont été établis pour chaque zone en mettant en relation tous les éléments regroupés. À cela se sont ajoutées des séries de relevés des températures dans les fours à l'aide de sondes et le contrôle d'autres mesures faites, elles, automatiquement. Aujourd'hui, cependant, ce travail reste en suspens car un investissement dans de nouveaux moyens de contrôle et de mesure s'avère nécessaire pour compléter le dossier et pour pouvoir apporter de réels résultats. The raw materials coming these directly from the
production line. As this function is carried out by... C'est qu'il en faut des moyens techniques pour produire de la saucisse. Ainsi, chez Herta, on modernise à tout va au moyen d'une nouvelle ligne de production novatrice. La machine est en réglage. Elle donne du fil à retordre aux équipes et techniciens. Mais depuis une semaine, les progrès sont perceptibles. S'est réjoui Philippe Garachon, directeur industriel du groupe. Ce sera la machine la plus performante d'Europe qui va nous permettre de faire passer notre capacité de production de 26 000 à 38 000 tonnes par an. Se félicitait le même Philippe en 2008. In the measure that this is extract of the machine. The bones are conducted by... Et c'est de cette industrialisation de la bouffe et de la malbouffe dont nous allons parler dans cette émission. La malbouffe est la nourriture jugée mauvaise sur le plan diététique en raison notamment de sa faible valeur nutritive et de sa forte teneur en graisse ou en sucre. Les hamburgers, les hot dogs, les frites, les chips, les pizzas, les sodas en sont les archétypes. Elle peut favoriser l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires, certains cancers, des dépressions, etc. Ce risque de dépression a d'ailleurs été corroboré par une étude espagnole de janvier 2011 qui a porté sur 12 059 personnes et a analysé leur alimentation durant 6 ans. Les résultats suggèrent un risque de dépression 48% plus élevé pour les sujets ayant consommé des graisses saturées par rapport aux sujets se nourrissant d'une autre manière.
C'est ce que tend à prouver également l'excellent film documentaire Super Size Me, écrit, réalisé et mettant en scène Morgan Spurlock, qui a tenté l'expérience de se nourrir exclusivement chez McDonald's pendant un mois à raison de 3 repas par jour. Ce régime a rapidement entraîné chez lui des effets néfastes sur son corps, son moral et sa santé. On en écoute un extrait.
100 millions d'Américains sont en surpoids ou obèses, ce qui représente plus de 60% des adultes. Depuis 1980, le nombre d'obèses a doublé. Il y a 2 fois plus d'enfants et 3 fois plus d'adolescents trop gros. L'obésité est la 2e cause de mortalité après la cigarette. 400 000 personnes meurent chaque année de malbouffe. Chaque jour, 1 Américain sur 4 mange au fast-food. Cet appétit pour la malbouffe n'existe pas qu'aux États-Unis. Il s'est propagé sur le plan mondial. McDonald's a plus de 30 000 enseignes réparties sur les 6 continents. Il nourrit plus de 46 millions de personnes chaque jour. C'est plus que la population de l'Espagne.
L'industrie du fast-food n'a pas seulement contribué à transformer le régime alimentaire des Américains, mais également leur paysage, leur économie, leur main-d'œuvre et leur culture populaire. Extrait du livre Fast Food Nation, publié en 2001 par le journaliste d'investigation Eric Schlosser, qui étudie l'impact local et mondial de l'industrie américaine de la restauration rapide, produit exclusif de l'histoire américaine, issu de l'émergence de l'automobile, de la standardisation de la culture d'entreprise, de l'évolution des conditions de travail et de la mondialisation. Selon lui, cette industrie exerce une puissante influence économique et par conséquent politique, et elle exploite cette influence pour accroître ses profits au détriment de la santé publique et des conditions sociales de ses travailleurs. Il explique comment l'industrialisation de l'alimentation américaine est allée de pair avec une économie de bas salaire, d'un prolétariat ultra mobile et corvéable à merci, et la construction d'une Amérique inégalitaire où les infrastructures payées par tous sont au service des intérêts de quelques industriels. Il raconte l'exploitation des enfants et des adolescents par les chaînes d'alimentation rapide. Schlosser affirme que la réduction des taxes professionnelles, qui a compromis l'équilibre financier des écoles, a donné l'occasion à plusieurs compagnies de parrainer ces mêmes écoles. Selon les sources citées par Schlosser, 80% des livres d'école parrainés contiennent des informations biaisées en faveur des parraineurs et 30% des lycées offrent du resto rapide dans leur cafétéria. Schlosser cite l'exemple d'un étudiant exclu d'une école pour avoir porté un t-shirt Pepsi le jour de la fête du parraineur Coca-Cola, pendant lequel tous les étudiants, vêtus de rouge et de blanc, devaient former le mot Coke sur le terrain de football pour être photographiés depuis le ciel. Il met également l'accent sur l'indigence des contrôles d'hygiène, la très très mauvaise qualité des ingrédients utilisés par l'industrie alimentaire, la cruauté envers les animaux et l'exploitation des salariés, notamment des sans-papiers. Dans son examen de l'industrie de conditionnement de la viande, qui concerne la société IBP Inc. et Ken Montfort, Schlosser découvre que cette industrie emploie actuellement une majorité de travailleurs temporaires immigrés, main-d'œuvre facilement exploitable, et que les taux d'accident y est le plus élevé de tous les secteurs d'activité des États-Unis. Schlosser souligne plusieurs pratiques risquées, inconnues de la plupart des consommateurs, comme le recyclage des porcs et des chevaux morts pour la nourriture, ainsi que du fumier de poule utilisé en nourriture pour bétail. Schlosser signale que de telles pratiques sont à l'origine de la maladie de la vache folle, ainsi que de l'introduction de bactéries dangereuses, comme l'E. coli, dans la chaîne alimentaire. L'industrie agroalimentaire nous fait manger de la merde. Enfin, surtout aux plus pauvres d'entre nous, nourris au hard discount et aux produits raffinés, transformés, excipiés, colorés, exhaustés. Même dans la nourriture qui nous semble la plus simple, de la confiture par exemple, on rajoute des additifs. Là où il ne devrait y avoir que des fruits et du sucre, voire un acide citrique naturel. Quasiment tous les produits étalés sur les rayonnages des supermarchés contiennent leur guirlande d'additifs au nom aussi peu évocateur que le E102, colorant jaune de synthèse, le E122 pour le rouge, les E200 pour les conservateurs naturels ou de synthèse, les E300 pour les antioxydants et encore les lactates, citrates, lécithines, tartrates, orthophosphates, malates, adipates, alginates, gommes, diphosphates, triphosphates, édulcorants, glutamates, sulfates, chlorures, carbone, et j'en passe, qui servent à épaissir, gélifier, stabiliser, émulser ou encore édulcorer nos aliments. La définition officielle d'un additif alimentaire est une substance habituellement non consommée comme aliment en soi et habituellement non utilisée comme ingrédient caractéristique dans l'alimentation, comme le colorant rouge E120 qui est issu d'un tout petit insecte dénommé la cochenille et que, a priori, vous n'auriez pas l'idée de manger. L'additif n'est pas là pour apporter une valeur nutritive. Son adjonction intentionnelle aux denrées alimentaires dans un but technologique au stade de leur fabrication, transformation, préparation, traitement, conditionnement, transport ou entreposage a pour effet qu'elle devient elle-même ou que ses dérivés deviennent un composant des denrées alimentaires et donc sont obligatoirement inscrits sur l'emballage dans la liste des ingrédients avec leur nom barbare. On peut classer les additifs alimentaires dans trois catégories, les additifs inoffensifs pour la santé, dont la cochenille dont on vient de parler, les additifs avec une polémique, certains rapports de santé dans le monde considèrent que l'additif comporte un danger et d'autres non, les additifs dangereux pour la santé. Ce seuil de dangerosité est estimé avec la dose admissible journalière ou DGA qui représente la quantité d'une substance qu'un individu moyen de 60 kg peut théoriquement ingérer quotidiennement sans risque pour la santé. Cette quantité est évaluée différemment par chaque pays et ne fait pas toujours l'objet d'une étude scientifique efficiente, voire serait plus le reflet du jeu des lobbyistes tant les personnes chargées d'évaluer ces DGA sont en prise à des conflits d'intérêts. Comme l'a très bien montré Marie-Monique Robin dans son film « Notre poison quotidien ». De plus, la DGA est calculée pour une substance et ne tient pas compte d'effets synergiques possibles lorsque cette substance est associée à une autre. Or, on ne mange pas qu'un aliment par jour. En France, c'est l'Agence de sécurité sanitaire de l'alimentation qui évalue ou réévalue les doses journalières admissibles. Par exemple, elle vient de publier un avis sur l'aspartame début 2011 suite à la publication de deux études mettant en relief les risques que peut faire courir cet édulcorant très puissant. Selon l'Agence de sécurité sanitaire de l'alimentation, ces deux nouvelles publications n'apportent pas de base scientifique suffisante pour une réévaluation de l'aspartame au plan toxicologique et pour une remise en cause de la DGA. L'aspartame se retrouve dans plus de 6000 produits, du chewing-gum aux boissons light, du dentifrice jusqu'à certains médicaments, et 200 millions de personnes en consommeraient régulièrement. La DGA est fixée en Europe à 40 mg par kilo de poids corporel. L'aspartame est pourtant interdit dans plusieurs pays, dont le Japon. NutraSweet, l'entreprise qui le commercialise, a fait partie du groupe Monsanto. Et ce n'est que grâce à Donald Rumsfeld que l'autorisation de mise sur le marché a été autorisée, car les tests pour prouver que ce produit était inoffensif ont été faussés. En effet, l'aspartame se dégrade à 30 degrés, donc dans votre estomac, en plusieurs produits, la phénylalanine, le méthanol, le formaldéhyde, l'acide formique et le décapé, qui sont connus pour être des produits dangereux pour la santé. Et ce n'est qu'un exemple. Voici quelques additifs couramment employés par les industries agroalimentaires qui présentent des risques pour la santé et pas des moindres. Le galadoctyl ou E311, un antioxydant de synthèse qui peut provoquer de l'urticaire, des allergies, problèmes concernant les hémoglobines. Le phosphate d'aluminium acide sodique ou E541, utilisé dans les pâtisseries, présenté comme neurotoxique, pouvant entraîner des problèmes de reins, Alzheimer, des problèmes de cœur. Le sulfate d'aluminium ou E520, un dérivé de l'aluminium, nocif pour les reins, risque d'Alzheimer. Le monostérate de sorbinate E491, un anti-moussant utilisé comme colorant par exemple, risque pour la santé, liaison d'organes, diarrhée, etc. Le sucroester E473, antioxydant, présent dans la nourriture pour bébés, problème de digestion et diarrhée. La cellulose microcristalline E460. Un épaississant qui est soupçonné d'être cancérigène, il y a de nombreux tests en contradiction. Le polysorbate 20 E432, support de synthèse utilisé dans les desserts, risque pour la santé, problème de calculs rénaux, des tumeurs, allergies. La silicate aluminosodique ou E554, anti-agglomérant utilisé comme colorant, risque pour la santé, Alzheimer, problème au placenta. L'acide cyclamique ou E952 et sel de Na, Ca, édulcorant de synthèse pour remplacer le sucre. Risque pour la santé, cancer, additif interdit aux États-Unis depuis 1970, autorisé au Canada et dans d'autres pays. Petite liste non exhaustive trouvée sur le site www.danger-santé.org dans la catégorie additifs alimentaires. Ou encore les E621 ou glutamate de sodium, glutamate monosodique ou GMS. Le texte qui suit est un résumé d'une enquête réalisée par Corinne Gouget dans son livre « Additifs alimentaires danger » aux éditions Chariot d'Or. Le glutamate est une poudre blanche. Il est utilisé depuis le début du XXe siècle comme exhausteur de goût. On l'utilise beaucoup dans la cuisine exotique où il remplace le sel. Il a la capacité d'exciter nos papilles gustatives en donnant aux aliments cuisinés un goût irrésistible. En 1908, le professeur japonais Kikunea Ikeda l'identifie comme une nouvelle saveur, l'umami de umai, délicieux, qui symbolise aujourd'hui pour de nombreux spécialistes la cinquième saveur après le sucré, le salé, l'aigre et l'amer. On a commencé à utiliser cet exhausteur de goût dans l'industrie agroalimentaire en 1910, malgré des recherches médicales prouvant qu'il provoquait des effets secondaires. En effet, on retrouve des études scientifiques réalisées par deux ophtalmologistes anglais, les docteurs Lucas et Newhouse, qui ont observé chez des souris de graves endommagements des rétines suite à de fortes administrations de glutamate. Cependant, l'étude fut mise de côté et le glutamate fut classé comme additif sans danger par la FDA, Food and Drug Administration, aux USA. Plus tard, le professeur John W. Olney, spécialiste en neurophysiologie et en neuropsychopharmacologie à l'Université Washington de Saint-Louis aux États-Unis, reproduit l'expérience précédente dans le but de l'approfondir et il découvrit avec horreur que le glutamate endommageait la rétine mais détruisait aussi des parties vitales du cerveau comme les neurones. C'est vrai qu'on n'en a pas trop besoin, tout en affectant l'hypothalamus. En effet, le glutamate excite les neurones au point de les faire exploser. En 1968, le docteur Oman Kwok accuse l'additif de provoquer de soudaines migraines, de violentes nausées ou encore des éruptions cutanées intenses et confère à ses effets le nom de « syndrome du restaurant chinois ». Dans les années 70, le docteur G.W. Olney insiste auprès de la FDA pour que le glutamate soit retiré et interdit dans les aliments pour bébés. Ce qui fut fait car il expliqua entre autres que les doses de glutamate que l'on trouve dans les pots pour bébés ou les soupes toutes préparées sont suffisantes pour détruire les neurones du cerveau. En 1997, après des années de recherche, l'un des grands spécialistes des effets secondaires du GMS et de l'aspartame aux États-Unis, le docteur Russell Blaylock, a fait paraître son ouvrage « Excitoxin, the taste that kills ». Pour ce neurochirurgien et nutritionniste reconnu du Centre médical de l'Université du Mississippi, les effets des excitatrices comme le GMS et l'aspartame ne seraient pas en général dramatiques, mais dans la plupart des cas, les effets sont subtils et évoluent sur un laps de temps plus prolongé, indique-t-il dans son livre. Ils provoquent de nombreux désagréments, nausées, aftes, courbatures, vertiges, douleurs oculaires, maux de tête, crises d'asthme, réactions allergiques ou éruptions cutanées et auraient des effets nocifs sur la santé à long terme. Il a d'ailleurs été qualifié de véritable bombe à retardement par certains scientifiques. Consommés en grande quantité, les glutamates peuvent être à l'origine de troubles cardiaques, troubles digestifs, musculaires, neurologiques, respiratoires, urogénitaux, problèmes cutanés et troubles de la vue, tout en encourageant les tristement célèbres maladies de Parkinson, d'Alzheimer ou encore la sclérose latérale. Malgré ces études qui prouvèrent sur le plan scientifique international que le glutamate est néfaste pour la santé, la puissante multinationale nippone Ajinomoto, ou Essence du goût, dont le fondateur n'est autre que le professeur Kikunea Ikeda, celui qui a découvert ce fameux glutamate, il inonde le marché avec ce produit et on en retrouve dans de très nombreux aliments, tels que les chips, les soupes en sachet, les bâtonnets de crabe, dans de très nombreux plats préparés, des centaines de desserts, de bonbons, de produits dits de régime et de nombreux produits au soja. Il se cache aussi souvent incognito dans ses sous-produits, protéines de soja ou de blé, sirop de maïs, acide citrique ou concentré, épices, arômes artificiels ou naturels, arômes naturels de poulet, de bœuf ou de porc, arômes fumés, maltodextrine, sauce au soja, arômes de caramel. On en mange tellement que même outre-tombe, ça pose problème. Lecture d'un article paru initialement dans The Sunday Telegraph et repris par le Courrier International le 27 novembre 2003, intitulé « Quand les Maccabées font de la résistance ». Le traditionnel « tu es né poussière et tu retourneras à la poussière » ne s'applique apparemment plus à l'Allemagne. Au moins 40 cimetières, dont ceux de Cologne, Munich et Kiel, n'acceptent plus de nouvelles inhumations, car ils sont remplis de cadavres non décomposés. L'Autriche et la Suisse sont confrontés à un problème similaire. Les corps mis en terre il y a 30 ans ont l'air d'avoir été inhumés la semaine dernière, affirme Walter Müller, un entrepreneur de pompes funèbres de Berlin. C'est comme s'ils avaient mariné dans des produits conservateurs. Pendant des siècles, les fossoyeurs ont rouvert les anciennes sépultures pour y placer de nouveaux cercueils. Ceux-ci venaient prendre la place des bières précédentes, qui s'étaient désagrégées et enfoncées dans le sol avec leur contenu. On a toujours partagé ou réutilisé les tombes, on y ajoute des corps et la nature suit son cours, explique le professeur Rainer Horn, chef du département d'études des sols de l'université Christian Albrecht de Kiel. Mais le processus de décomposition, qui prenait autrefois de 8 à 10 ans, dure aujourd'hui beaucoup plus longtemps. Dans un tiers des tombes d'Allemagne, des corps enterrés il y a 30 ou 40 ans ne sont toujours pas décomposés. Cette situation est si préoccupante qu'entrepreneurs de pompes funèbres, administrateurs de cimetières et scientifiques se sont réunis en conférence à Hambourg pour débattre des causes et des solutions possibles. Pour certains, le problème est dû à l'alimentation humaine. Les gens consomment tellement de conservateurs que les corps ne se décomposent plus comme avant. Pour d'autres, la pollution et les pesticides éliminent les bactéries nécessaires au processus de décomposition. À en croire les premières études, les causes sont multiples. L'analyse des sols montre que la concentration d'azote, gaz libéré par les cadavres, et de métaux lourds, comme ceux utilisés dans les amalgames dentaires, est en augmentation. Ces deux formes de contamination des sols pourraient freiner la décomposition. Quoi qu'il en soit, il faut repenser radicalement les pratiques funéraires. On pourrait par exemple installer un nouveau système de caveau. Les cercueils seraient entreposés dans un sarcophage de béton plutôt que directement mis en terre. L'air pourrait ainsi circuler et y pénétrer, ce qui ferait passer le temps nécessaire à la décomposition à environ 12 ans. On pourrait ensuite réutiliser le caveau. Werner Wirzel et Frank Waldmann, deux géologues de Bade-Württemberg, qui se sont également penchés sur la question, suggèrent plutôt que l'on renonce au cercueil en chêne et que l'on emploie plutôt des bières en pin dont la décomposition est plus rapide. Le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie envisage de modifier sa législation et d'autoriser l'immunation des corps dans des sacs de toile de jute ou de coton. D'autres Länder autorisent désormais les enterrements en pleine nature où les arbres servent de pierre tombale dans l'espoir que ces cimetières à l'arrache remplaceront les sépultures traditionnelles. Une société norvégienne propose, elle, une solution radicalement différente. Il faut injecter des produits chimiques dans la tombe pour accélérer le processus de décomposition des cadavres. Et voilà! Pour le moment, les employés des cimetières autrichiens et allemands en sont réduits à creuser des tombes plus profondes, à descendre l'ancien occupant d'un étage et à mettre le nouveau par-dessus.
Les lamours s'enrichissent face aux maladies, les arbres prolifèrent. abonnés. Ah, quel triste sort. Le capitalisme, c'est la mort. Ça me désespère. Le capitalisme, c'est la guerre. Nous sommes enfoncés dans la leur logique de profit. Mais où on n'attend pas, le capital surgit. La loi du plus fort, généralisée. Seul une poignée d'hommes se sort de ce dernier. Un esprit de sort. Le capitalisme, c'est la mort. Ça me désespère. Le capitalisme, c'est la guerre. Passe et sa vie à la mer. Le capitalisme, c'est la mer.
Donc, ça, c'est la réception d'hiver. Donc, on se trouve dans le local.
Extrait du film documentaire « Ces fromages qu'on assassine », un film de Joël Santoni et Jean-Charles Degnaud. Lors de leur visite dans une usine de fabrication de camembert et ensuite à l'université du goût à Tours. Un laboratoire où l'on fabrique du fromage avec des pipettes.
Très important du lait. Donc la partie protéines d'un côté et la partie lactose de l'autre.
On vient vous voir parce qu'on sait que vous pouvez nous expliquer comment on procède à la fabrication d'un fromage sur le plan biologique et scientifique.
Voilà, c'est
ce que vous êtes en train de démontrer,
c'est ce que nous faisons ici. Voilà, tout à fait. Donc avec une partie expérimentale, donc vous voyez une partie de production de camembert, là-bas une partie de production de Saint-Paulin, et là-bas une production de fromage frais.
Alors c'est pas un camembert de terroir, c'est un
alors,
camembert
c'est
universitaire.
C'est un camembert du terroir de la faculté de la des sciences de Tours.
Que font-ils? Ce sont les étudiants du goût.
Alors, on les veut capables de travailler dans les laboratoires de recherche et développement de nos industries.
Pas que du fromage, alors?
Pas que du fromage. C'est l'industrie agroalimentaire en général.
Donc là, vous cherchez uniquement à produire un aliment. C'est un produit alimentaire.
Produit un aliment stable.
Vous ne cherchez pas l'origine géographique?
Non.
Non. Là, il n'y a pas d'identification du produit.
Il n'y a pas d'identification.
C'est un produit comestible.
C'est un produit comestible.
Le scandale de la mayonnaise ou du rififi dans la rémoulade. De l'huile de moteur dans la mayo. Derrière ce titre hallucinant, Le Canard Enchaîné révélait en mai 2008 une affaire peu ragoûtante pour les consommateurs de mayonnaise, vinaigrette industrielle, conserve à l'huile et autres plats cuisinés. Autant de préparations alimentaires qui auraient été conçues avec une dose d'huile de moteur mélangée à de l'huile de tournesol classique. Une alerte européenne sur de l'huile de tournesol contaminée a été lancée par la Commission européenne. La contamination a été signalée mercredi par les autorités françaises sur une cargaison d'huile de tournesol d'Ukraine arrivée le 23 février en France. Tous les États membres ont aussitôt été avertis, a-t-elle indiqué dans une dépêche AFP. Les produits concernés sont rapidement retirés des rayons. Mais le 7 mai, la répression des fraudes publie une note levant le retrait sur les produits ayant moins de 10% d'huile de tournesol contaminée, au motif que la toxicité d'une telle dose n'est pas avérée. La Commission européenne confirme, un homme de 60 kg peut ingurgiter 1,2 g d'huile de moteur par jour sans risque. Va savoir où est-ce qu'ils ont trouvé ça. Selon le communiqué de presse de la direction des fraudes du 15 mai 2008, il ressort qu'étant informé de la fraude le lundi 7 avril 2008, l'importateur, c'est Paul Le Sieur, n'a informé la fameuse direction que le mardi 22 avril 2008, soit plus de 2 semaines après. Aucune explication à ce sujet sur le blog de Le Sieur, ouvert pour l'occasion à l'époque. C'était en plein été, à l'époque les médias ne se sont pas vraiment emparés de cette affaire et pourtant le scandale de la mayonnaise nous en dit beaucoup sur le jean-foutisme de la Commission européenne quand il s'agit de sécurité alimentaire. Vous pouvez retrouver tout l'historique de cette affaire sur le blog Le Scandale du siècle, très bien documenté. Cette émission a été réalisée par Radio Girafe. Les morceaux utilisés pour le montage sont de Jumbo Jet et de Part de Pizza avec 3 Z, les morceaux Cacapitalisme et Bouffée du Riche. Et de Alt F4, un morceau intitulé Retrofunk placé sous licence Creative Commons disponible sur le site Dogmazic. Come to the back with the last day.
Avec Radio Girafe, on prend de la hauteur.